Bonjour Mélanie Fazi, bienvenue à la Tribune des Vagabonds. Merci de nous accorder cet échange, cet entretien. Je vais très rapidement t'introduire et puis après on parlera de tes deux derniers ouvrages qui sont très très particuliers dans ta création d'autrice. Alors donc tu es surtout nouvelliste. Hein, quand on tape dans Google Mélanie Fazi, ça apparaît tout. C'est la première chose qui apparaît. Donc, tu as eu plusieurs prix, dont l'un pour une nouvelle qui s'appelait Porcelaine. Donc, je cite juste en passant qui c'était le prix pour Miroir de Porcelaine. Excuse-moi, c'était le prix de. Je me perds dans les prix. Tu peux m'aider?
Celui-là, je ne sais plus. Peut-être le Masterton?
Je pense, oui. Oui, c'est ça, je ne l'ai pas noté. Excuse, je te prie de m'excuser. Après, tu te présentes aussi comme chroniqueuse en musique. Tu fais des comptes rendus de concerts, d'albums aussi. Tu en parles beaucoup d'ailleurs dans tes ouvrages, de la musique. C'est quelque chose qui
Effectivement.
est très important pour toi. Tu es traductrice. Tu vis principalement de c'est ton métier
Voilà,
de base,
principalement.
et je citerai aussi en 2009 le prix Chambon pour la traduction de Ligne de vie chez Bragelonne de Graham Joyce. Tu traduis de l'anglais, anglais qui est aussi une
Voilà.
langue qui a beaucoup d'importance dans ce que tu écris. Il y a même une scène assez extraordinaire dans un de tes livres sur New York, la musique et les États-Unis. Donc, je te reçois principalement pour deux essais, en fait, parce que tu es nouvelliste. J'ai pas précisé que tu écrivais principalement dans le champ du fantastique, pour parler un peu
Et pas
plus
partout,
largement. C'est un genre de l'imaginaire dont tu dis toi-même effectivement qu'il est très mal représenté, qu'il n'a pas beaucoup de débouchés, en France en tout cas. Et voilà, donc je te reçois pour les deux essais, et puis après je te donnerai la parole pour que tu te présentes plus en détail, bien sûr, pour les deux ouvrages qui sont, le premier c'était Nous qui n'existons pas, chez Dystopia, qui est sorti en 2018, et le second qui est en fait une suite sans être une suite, puisque la thématique est différente, mais la démarche de quête personnelle est identique, un petit peu, je pense approfondie, qui s'appelle L'année suspendue, qui est toujours sorti chez Dystopia en 2021. Donc,
voilà.
c'est ton ouvrage le plus récent. Et voilà, donc je te passe la parole. Je pense que c'est à toi. Si tu peux te présenter, si tu as envie de. Après,
Je
on
sais
rentrera.
pas tellement ce que je peux ajouter à ça. C'est vrai que quand je me présente, en général, je reste sur du très factuel. Donc effectivement, j'ai publié 7 livres jusqu'à présent. Je suis donc principalement traductrice en termes de temps et de finances, je dirais. C'est vraiment mon métier. Principal en termes de revenus et de temps.
Et c'est toujours en littérature,
Toujours, voilà,
toujours
toujours
de la
principalement
traduction en
littérature
littérature.
de genre. Actuellement, principalement d'un seul auteur qui est Brandon Sanderson, qui est très, 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 très prolifique.
Oui,
Il fait des très, 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 très gros bouquins, donc ça
oui.
m'occupe. J'adore ça, de toute façon. Sinon, je disais donc, j'ai publié sept ouvrages. Il y a eu 3 recueils de nouvelles. Effectivement, c'est ce que je faisais principalement au départ, des nouvelles fantastiques. Il y a eu 2 romans qui ont été des tentatives, donc je ne suis pas complètement satisfaite. Je pense que vraiment en fiction, mon format de prédilection, le format où je suis à l'aise, c'est le court. Et suite donc à ça, un parcours personnel un peu compliqué, il y a eu 2 livres qui ne relèvent pas du tout de la fiction et
Non.
qui n'étaient pas anticipés du tout. C'est-à-dire que Nous qui n'existons pas, 3 semaines avant de le commencer, je ne savais pas que j'allais l'écrire.
Ah
C'est
oui.
vraiment quelque chose qui m'est tombé dessus et. On sera sans doute amené à en parler suite à la publication d'un billet de blog dont il est le prolongement et qui est un événement qui a changé ma vie. Il n'y a pas beaucoup de moments dans une vie où on peut dire que quelque chose bascule dans le bon sens. Et là, voilà, j'ai basculé dans complètement une autre étape de ma vie et de mon rapport à la fiction et de ma réflexion aussi sur mon identité et ma place dans le monde, je dirais. C'était il y a 5 ans maintenant. Et voilà,
2018, oui.
Deux livres sont sortis. Je peux peut-être préciser leurs grandes lignes, en fait.
Oui, tu la, la démarche, tu peux. Oui, vas-y, commence à en parler, puisque c'est tout à fait.
Oui. Je dirais que les deux ont en commun de parler de mon rapport à la norme, du fait d'avoir grandi en étant différente de la norme, mais en n'ayant pas de mots précis pour dire en quoi j'étais différente, et donc en n'ayant pas identifié que je l'étais. Je sentais que les autres n'arrêtaient pas de me renvoyer que ce que je faisais était bizarre, que non, les choses ne fonctionnent pas comme ça, que bon, moi, je ne me sentais pas bizarre au départ, mais les autres me renvoyaient quand même qu'il y avait quelque chose. Et j'ai fini par mettre deux mots sur ça. Le premier a été asexuel et aromantique, mais en gros, je suis quelqu'un qui n'est pas intéressé par les relations de couple, pas en recherche de ça, même si j'ai eu une expérience de couple. Mais c'est pas quelque chose qui m'est que je recherche activement, je dirais. C'est vraiment pas du tout quelque chose qui est central pour moi. Et par-dessus ça, j'ai découvert suite à la publication de ce premier livre que j'étais, on m'a suggéré que j'étais probablement sur le spectre de l'autisme. Et j'ai eu un parcours un peu compliqué pour en avoir confirmation, ce qui est le sujet du deuxième livre, L'année suspendue.
Oui, tout à fait, et qui est d'ailleurs assez impressionnant parce qu'il faut s'accrocher manifestement
pour obtenir un
diagnostic après, c'est sûr. Et du coup, quand tu parles de ça, dans ces livres, de ce cheminement, c'est quasiment une quête, surtout le deuxième, parce que tu es quand même obligée d'aller chercher les clés toute seule, de les trouver, de t'opposer. Puis, est-ce que tu vois ça comme un témoignage parce que dans ton livre, manifestement, tu n'es pas la seule à rencontrer ces difficultés, tout simplement, à rencontrer un médecin.
Oui, c'est vraiment l'angle. Je dirais témoignage de toute manière, oui, puisque moi, je ne les considère pas pleinement comme des essais, dans le sens où, enfin, sur la forme sans doute. Pour moi, un essai, c'est davantage quelque chose de théorique qui va aller creuser un sujet, qui va aller reposer sur des sources documentées. Et là, je mets vraiment en avant, et je le revendique dans le texte, le côté subjectif. C'est-à-dire, je parle d'une expérience que je raconte vraiment telle que je l'ai vécue, mais en ayant la conscience que cette expérience est partagée par d'autres, et que j'espère que le texte tel quel est représentatif de ce que d'autres vivent aussi. Je vais vers le plus personnel pour aller vers quelque chose d'un peu plus universel, même si je parle de quelque chose qui est hors norme. Après, une quête, je pense qu'aussi, c'est une quête dans le bon sens du terme. Je pense que je fais cette démarche aussi parce que pendant longtemps, j'étais très seule avec tout ça, et vraiment très seule à me débattre avec des questionnements dont je ne trouvais pas la réponse. Je n'ai été aidée ni par des médecins ni par des psychologues sur ça, puisqu'ils n'ont pas mis des mots sur ça. En tout cas, ils m'ont aidée sur d'autres choses, mais pas sur ça. Et c'est très tardivement que j'ai découvert que d'autres personnes étaient comme moi. Donc, effectivement, on finit et on retrouve ça dans énormément de témoignages d'autistes et diagnostiqués tard, et notamment des femmes. C'est on apprend à se débrouiller tout seul, on apprend à chercher ses solutions parce que personne ne le fera pour nous. Personne ne l'a fait pour nous pendant des années.
Oui, c'est-à-dire que quand on lit l'ouvrage, on se rend compte que tu as dû aller rien que pour, entre guillemets, apprendre à vivre avec les autres, avec tes semblables, tu as déjà dû deviner, interroger, tu as eu beaucoup d'expériences douloureuses parce que tu n'avais pas le mode d'emploi, en fait.
Voilà, c'est exactement ça.
Et ce qu'on te renvoyait en face n'était pas forcément rassurant ni aidant à structurer, pas une personnalité, parce que tu l'as construite, mais tes relations, finalement.
Les relations, l'estime de soi, la place dans le monde. Mais ça, c'est ce qui m'a frappée, c'est quand j'ai commencé à mettre le mot sur le... Sur les deux termes, aussi bien la sexualité que l'autisme, mais en particulier quand j'ai lu des témoignages sur l'autisme, ça revient quasiment tout le temps. C'est-à-dire qu'avoir enfin un mot, c'est se dire, voilà, c'est pas moi qui avais quelque chose de travers, c'est pas moi qui étais défectueux, c'était... Et c'est vraiment cette impression, il y avait un mode d'emploi et on ne me l'a jamais donné. Donc, en me donnant le mien, on me donne celui des autres aussi.
Tout à fait, et puis, oui, je suis d'accord, parce qu'en plus, le mode d'emploi... Enfin, personnellement, dans un autre domaine, puisqu'il faut des modes d'emploi finalement pour vivre les uns avec les autres, j'ai grandi dans une société où on n'expliquait rien, justement. Il fallait tout comprendre tout seul. Et du coup, on développe un instinct. Et en fait, cet instinct où on le développe, où on ne peut jamais s'intégrer parce qu'on ne vous dit rien.
Complètement, oui.
Voilà. Et un jour, on comprend. Mais souvent, c'est des années après ou alors on reproduit des
Oui,
comportements.
c'est vraiment de l'ordre de la survie quelque part. C'est bon, bah, à un moment donné, je suis dans une situation qui est inconfortable, j'ai pas envie de me laisser abattre, qu'est-ce que je fais avec ça? Et on finit par développer un sens de l'observation, essayer de comprendre, d'observer. J'ai découvert beaucoup de personnes autistes ont un intérêt très très marqué pour la psychologie.
Oui.
Effectivement, pour comment ça fonctionne dans la tête des autres, c'est quelque chose. Je me suis encore heurtée récemment à ce cliché de l'autiste qui est replié dans son monde et qui ne voit pas ce qui se passe en dehors. Alors qu'il s'avère qu'on est quand même assez nombreux à être en demande et simplement ne pas trouver comment aller vers les autres.
Bah dans le livre, c'est clair de la petite fille dans son bus qui ne comprend pas en fait comment interagir à la petite fille qui arrive quand même à avoir des amis, parce que ça, c'est effectivement, c'est très puissant. C'est assez c'est émouvant souvent d'ailleurs, parce qu'on voit ce déroulement. Et puis, arrivé à un certain âge, tu poses les bagages, tu poses les sacs dans années suspendues, c'est vraiment ça, quoi. Tu tournes et tu prends le temps de voir de régler le problème, en fait, quelque part.
Ben c'est vraiment là encore un truc de, je dirais, de survie. C'est qu'à partir du moment où cette question a été amenée, il faut savoir qu'un des... Alors, il y a eu tout un enchaînement de circonstances qui m'ont amené à ces découvertes et à ce parcours. Pour le cas de l'autisme en particulier, il y a eu en 2014, alors ce que j'appelle un burn-out, mais je n'ai pas été diagnostiquée officiellement, mais en tout cas un
Oui.
épisode d'épuisement extrême qui m'a laissé des séquelles. Je supporte beaucoup moins bien les bruits, je suis fatiguée tout le temps, je ne m'en suis jamais remise complètement. Et il est assez probable que ce soit parce que je ne connaissais pas mon fonctionnement. Donc, j'ai dépassé mes limites jusqu'au moment où ça a craqué, en fait. Et cette fatigue, j'ai passé des années à chercher la cause, la solution. Je pensais qu'il y avait une solution magique quelque part. Donc, on fait bilan de santé, on fait bilan
Non.
psychologique, on fait tout, on cherche, on cherche, on cherche. Et non, cette fatigue est toujours là. Et cette fatigue était tellement insupportable au bout d'un moment que je ne pouvais pas rester à ne pas chercher de solution. Et à partir du moment où on m'a dit, ben, voilà, la solution est peut-être là au niveau de l'autisme, c'était impossible de ne pas aller creuser. C'est impossible de toute façon d'avoir cette clé et de ne pas au minimum aller regarder le sujet. Et je pense que ce qui a été le moteur le plus puissant pour moi, il y a des gens pour qui c'est plutôt au niveau des difficultés sociales. Maintenant, j'ai atteint un stade où je pense qu'effectivement, j'ai noué des amitiés qui sont assez solides et ça a été une victoire pour moi. Je suis à un endroit où je ne me concevais pas il y a 20 ans. Mais par contre, la fatigue a pris des telles proportions, la fatigue, le stress sensoriel aussi, c'est-à-dire que je suis hypersensible au bruit et à la lumière et je les tolère de moins en moins. Il fallait que j'aie des réponses pour ça. Parce que ça me pourrit la vie vraiment.
Et là, maintenant que tu as fini ce que tu as rédigé ce livre, tu l'as terminé, tu penses que c'est qu'il y a encore des choses à creuser ou dans ce spectre, justement, dans ce que tu appelles le spectre de l'autisme,
Mais là,
ou
je
est-ce que...
pense, pardon. Je
Excuse-moi.
pense être arrivée à. En fait, je suis à la fois à la fin d'un cycle et pas tout à fait. Je pense que je suis arrivée pour l'instant au bout de ce que j'avais à écrire sur la question de la différence. Donc, ce cycle d'écriture, pour l'instant, il est bouclé. Je suis dans une phase où je ne me sens pas encore de reprendre l'écriture et de passer à ce qu'il y aura derrière. Parce que là, je suis vraiment dans le. On m'avait prévenu que c'était très long de digérer un diagnostic, c'est-à-dire on passe par tout un tas d'étapes, il y a la quête, il y a eu le moment où je me suis focalisée sur l'écriture pour tenir, parce que c'est quand même un bouleversement. Ensuite, j'ai pas eu de bol, il y a eu une petite histoire de pandémie qui nous est tombée dessus et qui a chamboulé tout ce qui aurait pu se
Ouais.
passer derrière dans
C'est
d'autres
sûr
circonstances.
que
Donc,
pour les relations sociales, ça a été pas génial.
ça pour ça, puis en termes
Oui.
de stress supplémentaire qui
Oui.
a. Enfin bon, bref, toutes les cartes ont été à nouveau rebattues. Et là, je pense depuis pas la sortie du livre, mais un peu après, je me suis rendu compte qu'il y avait une chose que je n'ai pas encore creusée, c'est la part de handicap. C'est-à-dire que l'autisme, il y a à la fois une différence, c'est-à-dire être étrange aux yeux des autres, ne pas parler comme eux, ne pas voir le monde comme eux, ce genre de choses. Et il y a une part de handicap plus ou moins présente qui, chez moi, se manifeste donc par cette fatigue et cette sensibilité notamment au bruit et à la lumière, qui m'empêche de faire tout ce que je voudrais. Je commence à ne plus pouvoir voyager. J'ai du mal à sortir de chez moi tous les jours parce que je suis agressée par les bruits. Enfin, voilà, des choses comme ça. Il y a vraiment un handicap. Et là, je suis arrivée à un stade où je comprends que, bon, il faut que je prenne le taureau par les cornes à l'endroit du handicap. Je cherche l'équilibre. Je ne peux pas continuer à vivre comme j'ai vécu pendant des années parce que c'est ça qui m'a un peu bousillée.
Oui.
Je ne veux pas non plus renoncer au travail, à la vie sociale, à tout ça. Il y a un équilibre à trouver. Où est-ce qu'il est exactement ? Où sont mes priorités et où est-ce que je peux mettre de côté ? Donc là, je suis vraiment focalisée sur ça. Et du coup, c'est plus un moment pour moi qu'un moment pour l'écriture et pour l'exploration du thème vaste.
Oui, c'est-à-dire que pour l'instant, on pourrait dire que tu digères en fait tout le travail que tu as fait, qui était quand même très très profond et très épuisant, j'imagine aussi. Parce
Plutôt,
que...
il y a beaucoup de facettes à explorer.
Ouais.
Effectivement, ça prend quelques années pour vraiment retomber sur ses pattes. Bon, surtout avec une pandémie en plein milieu qui a vraiment tout explosé.
Tout retardé,
c'est
sûr.
J'ai eu 6 semaines entre le diagnostic et le début du premier confinement, donc ça a été très, très précipité.
Ah oui, puis après les médecins étaient aux abonnés absents.
Bah après, il m'a fallu moins un moment pour comprendre,
pendant 4 mois, c'est ça.
Ce que... Ouais. Bon, il a fallu un moment pour continuer à mettre de l'ordre dans tout ça, je dirais.
Et en fait, c'est ce qui a aussi ce qui m'a fascinée, et vraiment, je suis rentrée dedans plus facilement, c'est qu'en fait, en tant qu'écrivaine, tu as beaucoup lu sur la thématique, puisque tu dis que tu as beaucoup, beaucoup lu, puis c'est en fait la première information que tu as pu trouver.
Oui.
Et que tu as écrit. Donc, en fait, tu as continué à écrire, même si ce n'était plus des nouvelles du fantastique, mais tu dis quand même beaucoup dans ton texte, surtout dans le deuxième, que tu comprends mieux certaines de tes nouvelles maintenant que tu
Oui,
as fait cette
complètement.
analyse. Et tu peux donner un exemple ou...
Oui, bien sûr. Ben, de toute façon, moi, j'ai toujours mis en avant que j'ai un rapport à l'écriture qui est très instinctif et j'ai toujours eu conscience qu'il y avait des éléments personnels que je découvre des fois des années après. Des souvenirs d'enfance, des choses, tiens, le rapport entre ces deux personnages, ah ben tiens, ça fait écho à ça, mais je le vois 10 ans après. Il y a toujours eu ça. Un exemple qui m'a frappée, ben, je pense que de toute façon, le fantastique, je dis maintenant que c'était une manière d'explorer ce que j'appelle mon étrangeté au monde. Je pense qu'il y avait vraiment ce côté... J'ai jamais écrit sur le thème de la menace extérieure qu'il faut renvoyer. C'est vraiment le trouble de quelque chose est étrange. Donc, il y a vraiment ça. Ou alors, un personnage découvre qu'il n'est pas ce qu'il pensait être. J'adore ce thème-là. L'exemple que je donne aussi, c'est que j'ai écrit... Alors, dans ma nouvelle Le train de nuit, je donne l'exemple dans L'année suspendue. J'ai mis en scène un personnage autiste sans savoir que j'étais autiste, ni sans savoir que le personnage l'était, en ayant simplement la conscience que c'était une espèce de prolongation un petit peu exagérée à mes yeux de ma propre étrangeté. J'avais conscience que ce personnage me ressemblait en partie, mais je ne savais pas à quel point. Récemment, dans une rencontre en librairie, on m'a fait lire le début à haute voix, enfin ce passage-là à haute voix, et notamment, on voit le personnage se balancer, par exemple, alors que je ne savais pas encore à l'époque que moi-même, quand je suis stressée, je me balance. Ça, je l'ai découvert très tard. Il y a des choses comme ça qui sont troublantes, en fait. Je le savais sans le savoir.
Oui, en fait, tu avais une conscience inconsciente, peut-être, de ton corps.
Complètement. Je pense dans tout ce que j'écris et dans tout... Mais je pense depuis longtemps, puisque petite, j'écrivais... Enfin, j'inventais des histoires et je dessinais. Et ma mère m'a dit qu'elle a toujours eu l'impression que ce que je créais, ce n'était pas juste pour m'amuser, c'était... Je cherchais à exprimer des choses. Ça a toujours remonté à très loin. Et j'ai en plus cette impression que c'était pour exprimer ce que justement je n'arrivais pas à dire. Puisqu'il y a à la fois dans l'autisme et dans le fait de ne pas savoir qui on est. Dans l'autisme, il y a beaucoup des difficultés à communiquer avec l'autre. À l'écriture et en particulier à l'oral. Beaucoup d'autistes sont très à l'aise à l'écrit, par exemple.
Oui, tu dis ça d'ailleurs dans... que tu préfères les mails au coup de téléphone, par exemple.
Complètement. Ben, on n'a pas à surveiller le ton de sa voix, on n'a pas à savoir comment dire bonjour, au revoir, on a le temps d'y réfléchir, on n'est pas pris au dépourvu par une question qu'on n'a pas prévue. On maîtrise, en fait, quelque part, c'est de la pensée pure et on a le temps, surtout on a le temps. Le mail, ça m'a changé la vie, moi.
Oui, ben, ça m'étonne, parce que ça m'a beaucoup étonnée parce que moi, je déteste les mails parce que les gens les lisent en... souvent en diagonale, ils n'ont pas saisi la pensée. Mais bon, c'est...
Mais on a l'avantage, je dirais, de pouvoir le relire, alors qu'une conversation, ça va trop vite.
Oui, puis
trop d'informations et de non-verbal à gérer.
Et puis, on a le temps de répondre surtout avec un mail si on…
Voilà, on peut prendre le temps.
Voilà, tandis que ben, si on est pris de court, pareil, c'est sûr, dans une conversation, on n'a pas… Et justement, ça m'a un petit peu interpellée. Je pense qu'il n'y a pas que les gens qui seraient autistes qui en souffriraient. C'est de se refaire le film. Voilà ce que j'aurais dû répondre.
Oh, ben ça, complètement.
Voilà, c'était aussi, en fait, c'est aussi de la mise en scène des souvenirs, quelque part, de ce qu'on aurait pu faire. Et on revient dans, je suis sage, mais finalement, j'ai fait comme si j'étais comme ça. Et c'est,
on a beaucoup, ça, de toute façon, c'est un schéma de pensée qui est commun à beaucoup de gens. Et effectivement, ce n'est pas du tout spécifique. Après, c'est vrai que beaucoup de gens qui sont hors normes, autistes, neuroatypiques ou d'autres choses, on nous a tellement fait ressentir que ce qu'on fait n'est pas comme il faudrait, que je pense qu'on a cette espèce de petite voix à l'intérieur qui nous souffle, qui critique en permanence ce qu'on est en train de faire. Et ça, c'est très, très difficile. Je ne suis pas sûre que j'arriverai à m'en défaire un jour. N'importe quelle conversation, n'importe quelle situation sociale, je suis constamment en train de me dire, mais est-ce que ça, c'est ce que je devais dire? Est-ce que…
Oui,
c'est… Il y a une petite voix dans ma tête qui analyse tout le temps. Et ça, c'est épuisant.
Oui, ça amène un manque de confiance en soi, finalement.
Ben complètement, surtout à mesure qu'on a conscience de comment fonctionne l'autre. C'est comme si on avait un petit ordinateur à l'intérieur qui calcule. Et c'est aussi pour ça qu'on est complètement épuisé après une conversation. C'est comme une analogie que j'ai déjà faite, c'est comme une langue étrangère. Si on parle une langue étrangère toute la journée, on a beau apprendre à bien la maîtriser, ça reste quand même quelque chose de pas 100% instinctif. Il y a un effort cognitif en plus à fournir.
Oui, ça donne mal à la tête.
Oui, complètement.
Alors, je pensais aussi parler, donc tu l'as déjà dit d'ailleurs, le thème de l'étrangeté, d'être à côté, dont tu parles beaucoup, de ne pas savoir comment réagir en société. Et est-ce que, moi j'avais noté dans ma question, ça amène une souffrance quand même. Quand on est toujours en train de se demander en fait, quel est le sens de ce qu'on regarde ou de ce qu'on entend, et est-ce que ça te… Enfin, tu peux en dire un mot par rapport à tout le retour que tu as fait sur toi-même, est-ce que tu as… En regardant en arrière, enfin, tu ne regardes pas très loin en arrière, mais tu regardes quand même
oui, je remonte un peu jusqu'à l'enfance. Ben, y a forcément, et ça encore une fois, je l'ai retrouvé dans beaucoup de témoignages, ce retour en arrière pour tout réinterpréter. C'est-à-dire qu'on a une nouvelle grille de lecture et d'un seul coup, toute notre histoire est bouleversée. Mais même sur des petites choses, petites choses. C'est-à-dire que tous les moments où on s'est dit qu'on était inadéquat parce que on regarde autour de soi et on dit « mais les autres, ils arrivent à le faire, ça, pourquoi moi, je n'y arrive pas ?» D'un seul coup, on se rend compte que non, en fait, on fournit un effort qui est parfois beaucoup plus grand que celui que fournissent les autres pour faire la même chose. On y arrive moins bien, mais en fait, ça nous demande beaucoup plus d'efforts parce que simplement, on a un fonctionnement cognitif différent, on a des capacités différentes. Il y a encore beaucoup la croyance que c'est un trouble psychologique, un trouble mental, l'autisme, mais c'est une… Bon, pour résumer, on est câblé différemment, le cerveau se développe différemment. Donc, perçoit les choses différemment, donc les interprète et les traite différemment. Et ce n'est pas du tout de l'ordre du trouble mental, effectivement. Donc, je ne sais plus où j'en étais. Mais,
ben oui, on était sur l'étrangeté, en fait. Mais du coup, ça, est-ce que tu dirais, parce que bon, là, je ne sais pas dans quel domaine on pourrait… Qu'est-ce que c'est que… Comment tu donnes… Si tu devais donner une définition de l'autisme tel que au bout de toute cette expérience, de ces échanges, toujours subjectivement, si tu devais expliquer ça à quelqu'un.
Alors, on m'a posé la question récemment, justement dans une rencontre librairie. Alors, j'ai à peu près réussi à…
Ah voilà, vas-y.
Ce qu'on sait, c'est qu'il y a un facteur génétique. Il y a régulièrement plusieurs personnes autistes dans une même famille, des gènes se transmettent. Alors après, on ne sait pas encore bien pourquoi ça va être chez telle personne de la fratrie et pas telle autre, mais… Voilà,
c'est la roulette russe. Ouais.
Il y aurait des facteurs environnementaux, mais je crois que ce n'est pas encore très bien connu. Ensuite, voilà, on est donc avec un cerveau qui est câblé différemment. J'ai lu quelque chose que je trouvais assez intéressant, c'est-à-dire que… je vais peut-être dire une bêtise parce que je n'ai pas du tout une bonne mémoire des termes scientifiques ou des termes précis, Mais dans le cerveau, à la naissance, il y aurait un certain nombre de... Alors, ce n'est pas des connexions neuronales, mais des voies différentes qui sont ouvertes dans le cerveau. Et le cerveau, chez une personne neurotypique, va désactiver celles qui ne servent pas. Au bout d'un moment, tout ce champ de possibles, on ne va garder que ce qui va vraiment servir. Et chez la personne autiste, non, tout reste ouvert. Donc, c'est une cacophonie dans notre tête parce qu'en fait, on perçoit beaucoup plus d'informations que les autres. Et le cerveau, de ce fait, a beaucoup de mal à traiter les informations. Donc, quand on va donner l'impression qu'on est à l'ouest, ce n'est pas qu'on ne fait pas attention à ce qui est autour de nous, c'est qu'on perçoit en même temps le bruit de la voiture qui passe dans la rue et la conversation en face et la lumière et on n'arrive pas à hiérarchiser les informations. Donc, ce qui fait que les troubles sensoriels viennent de là, on est bombardé d'informations et c'est un stress énorme. Et du fait aussi que le cerveau est structuré différemment, on va faire la conversation un petit peu différemment. On n'a pas le même rapport à l'implicite, aux normes sociales, pas la même compréhension de certaines choses. On va par exemple voir beaucoup plus les détails que la globalité. Ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Et après, c'est compliqué à résumer parce qu'il y a beaucoup de manifestations possibles de tout ça qui vont différer d'une personne à l'autre. Dans mon cas, par exemple, ce que j'ai trouvé, c'est qu'il y a souvent un rapport à la franchise et un refus absolu du mensonge qui est poussé très loin, ça je l'ai très fort. Pour ça qu'on ne comprend pas, par exemple, pourquoi on met très longtemps à apprendre pourquoi à la question ça va, il ne faut pas répondre sincèrement. C'est très difficile pour beaucoup d'autistes d'apprendre ce genre de normes sociales où il ne faut pas dire les choses comme elles sont. Ça, c'est... On finit par l'apprendre, mais c'est vrai que on trouve ça un peu absurde. Moi, effectivement, j'aime beaucoup les détails et pas la globalité, ce qui explique sans doute pourquoi j'aime les nouvelles plus que les romans. J'aime me focaliser sur un personnage, un lieu, un incident, beaucoup plus que sur une histoire qui dure des années. Je cite dans le livre que, par exemple, j'ai une excellente mémoire je peux ressortir une anecdote lue dans un article et je suis incapable de dire de quoi parler l'article, mais c'est comme ça tout le temps. Voilà, après, il y a beaucoup de petites choses. Ce qui fait que le diagnostic, ça ne va pas se faire sur une chose, ça va se faire sur un certain nombre de critères qui sont généralement une difficulté à communiquer. Difficulté d'interaction sociale, les troubles sensoriels, ça c'est très très présent. On peut avoir une sensibilité au bruit, à la lumière, aux odeurs, aux textures, ne pas aimer porter des étiquettes dans les vêtements par exemple. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il peut y avoir des maladresses, des problèmes de motricité, qui ne sont pas très présents chez moi, mais un peu présents quand même. Qu'est-ce que j'ai oublié dans le tâche? Il me semble que... Enfin, les principaux...
On va lire le livre.
Voilà, et ensuite, on passe des tests précisément pour cerner tout le profil.
Oui, donc...
Donc, ça ne se résume pas en une phrase, en fait, l'autisme.
Voilà, et ce n'est pas forcément une maladie.
Pas du tout, ça peut prendre des formes différentes. Alors, il peut y avoir une déficience intellectuelle ou non. Il y a différents... pour ça qu'on parle de spectre, il y a des autistes qui vont être non-verbaux. Des autistes qu'on ne va pas déceler au premier coup d'œil parce qu'ils ne correspondent pas à l'idée qu'on s'en fait. Après, il y a énormément de comorbidités qui s'y rajoutent. Par exemple, des troubles digestifs, c'est très très fréquent, des intolérances alimentaires.
Ah oui.
On ne penserait pas à rajouter ça, mais ça revient beaucoup. Donc, sans être un critère essentiel, c'est quelque chose que les professionnels vont noter en disant « Ah bon, il y a ça, il y a ça, il y a ça ». On coche un certain nombre de cases sur la liste.
Et ça fait un faisceau après, voilà. J'imagine.
Oui. C'est ça, j'appelle ça le faisceau de présomption parce que c'est pas... Le dictionnaire dit repli de la réalité, c'est pas tellement ça en fait. On a besoin de se protéger des fois, de s'isoler pour se reposer.
Oui, mais en même temps, moi je me base sur ton livre, j'ai pas l'impression d'avoir vu quelqu'un qui se repliait. Quelqu'un est allé beaucoup, pas au combat, c'est un mot un peu excessif, mais enfin, qui est allé au feu. Et puis
toujours, disons que j'ai un gros, gros besoin de solitude, j'ai un goût pour la solitude, mais j'ai besoin des gens aussi. Par contre, au bout de quelques heures à une journée, je dirais, avec les gens, j'en peux plus. Il faut que je suis en surcharge, mon cerveau n'en peut plus, il faut que je m'isole. Mais j'ai un goût vraiment pour m'occuper seule en même temps, donc les deux coexistent. Mais j'ai besoin d'avoir mes proches, d'avoir des amis, d'avoir des activités avec les autres, mais en ayant une préférence aussi pour faire les choses seule.
Oui, donc partir en voyage en particulier.
Voilà.
Et aller à la découverte. Oui, tu cites un passage comme ça où pour toi, c'est partir à la découverte d'un pays, il faut le faire tout seul.
Enfin, je ne peux plus faire toute seule maintenant parce que, comme je disais, mes limites ont baissé.
Oui, c'est ça.
Ça devient trop douloureux. Mais je pense que c'est aussi parce que quand j'adore partir avec des gens, mais mon énergie n'est pas au même endroit. Si je veux vraiment profiter des lieux, les observer, les contempler, m'immerger dedans, je ne peux pas être avec des gens, je ne peux pas faire les deux à la fois. Donc je dois choisir. Si je vais en vacances avec des gens, mon énergie va être pour eux, quelque part.
Oui, pour les barbecues, les
Voilà, mais je ne peux pas
soirées.
tellement faire les deux.
Voilà.
Je pouvais il y a longtemps, mais là, j'arrive à un stade où même de toute façon aller à l'étranger, ça devient compliqué.
Ah oui, puis à l'étranger, pour le coup, c'est l'étrangeté doublée, quoi, des deux côtés.
Y a un petit peu de ça, oui, même si j'adore les pays anglophones parce que j'adore la langue anglaise, une fascination pour ça. Mais c'est vraiment plus la fatigue des transports, la fatigue
Oui,
de tout ça.
c'est physique finalement, c'est physique, oui. Ça devient un handicap physique, puisque... Mais... Et en fait, il y a une autre chose qui m'a bien intéressée, c'est la vision que tu as de l'âge, de la maturité de la femme en tant que femme. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que tu dis ce qu'on choisit, que l'âge, c'est ce qu'on choisit d'en faire finalement.
Mais je constate que je ne suis pas toute seule à avoir ce raisonnement, puisque là j'ai 45 ans maintenant et une bonne partie de mes proches, amis et famille, enfin famille, ma génération, ma sœur, mes cousins, tout ça, on a autour de la quarantaine. Et on est quand même un certain nombre, alors est-ce que c'est générationnel, je ne sais pas, à trouver une forme d'apaisement au moment de la quarantaine, souvent des gens qui ont été beaucoup en recherche. Peut-être que les gens qui ont été à l'aise très tôt dans leur vie vivent assez mal ce passage, mais on est nombreux à finalement... commencer à se libérer de beaucoup d'injonctions, que ce soit au niveau effectivement du sexisme, commencer à moins obéir à une femme doit être comme ça, elle doit être habillée comme ça, elle doit être absolument épilée comme ça, elle doit être maquillée comme ça, une femme c'est ça. Pour les personnes qui sont en dehors de la norme, décider que non, on n'a plus envie, on a fait des efforts toute notre vie et finalement si on s'assumait, c'est presque aussi simple, voire même plus simple finalement. On est un certain nombre de personnes... autour de moi à dire la quarantaine, on l'appréhendait. Mais finalement, c'est le moment où on commence à se connaître, on commence à savoir ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas. On commence à envoyer balader les gens plus facilement, sauf peut-être des gens qui avaient déjà un caractère très très affirmé plus jeune, mais pour d'autres, ça a pris du temps. C'est un âge où, alors on le paye peut-être au niveau physique, on perd certaines choses. Moi, j'ai perdu clairement en énergie, mais je suis beaucoup plus à l'aise avec ce que je suis. Et avec mon apparence, avec mes différences, avec le fait que, ben, d'accord, je ne suis pas entre guillemets comme tout le monde, mais ça m'a amené à des endroits intéressants. Alors, des endroits douloureux, ça, je ne vais pas dire le contraire, mais sans doute que ce que j'ai écrit, c'est aussi pour ça. Sans doute que tout ce que j'ai vécu d'intéressant, c'est pour ça aussi. La plupart des gens avec qui je m'entends bien sont des gens en dehors de la norme aussi. On a fini par se trouver. Je pense que. J'ai aussi arrêté de vouloir me conformer en écriture, je pense, à assumer beaucoup plus de faire les choses comme elles viennent et pas comme il faudrait pour faire carrière quelque part.
Et en fait, quand par rapport, parce que là, c'est une écriture dont on parle, ce sont des textes qui ne sont pas des textes de fiction, ni des textes littéraires. Mais est-ce que tu penses que ça peut jouer aussi ta façon d'écrire, de camper des personnages, des histoires, par rapport à il y a 10 ans encore, rien que 10 ans?
Ça, c'est un peu compliqué. Alors, par contre, moi, je les considère comme des textes littéraires dans le sens où je les ai écrits avec finalement la même démarche, la même attention au style, la même construction. On m'a dit que ces textes étaient construits comme mes nouvelles.
Ah, ils
Ça, je ne
sont,
m'en rends pas bien compte.
c'est, je peux le dire, hein, à nos auditeurs, lisez-les, ils sont très bien écrits, c'est très agréable.
Je pense qu'ils sont écrits avec
Voilà.
l'expérience que j'ai acquise en fiction. Donc, pour moi, il y a une passerelle, en tout cas, entre les deux. Après, il se trouve que la fiction s'est arrêtée il y a maintenant combien d'années? Ma dernière nouvelle date de 2006. Elle
Oui,
s'appelait
ça fait.
Minuit démasqué, c'est ça, dans l'anthologie Bal masqué des éditions du Chat Noir. J'ai eu de plus en plus de mal à écrire de la fiction, ça devenait plus naturellement. J'avais une pression énorme que je me mettais parce que je sentais que les gens attendaient que je continue à
Oui.
écrire des nouvelles. On venait m'en demander beaucoup et c'est terrible quand les gens viennent nous dire « J'aimerais que tu écrives une nouvelle pour tel projet d'anthologie ». Et on va dire, mais j'adorerais, mais j'y arrive pas, en fait.
Ah oui.
Vraiment, je voudrais, mais ça ne vient pas. Je me demande si le burn-out n'a pas un petit peu précipité ça. Peut-être que, ben, je ne sais pas, y avoir aussi d'avoir beaucoup changé en tant que personne. Je ne suis plus la personne que j'étais quand j'ai commencé les nouvelles. Il a fallu à un moment donné que j'écrive sur ces textes qui étaient déjà très compliqués à aborder, même en non-fiction. et je n'ai aucune idée de ce qui va venir derrière. Je sais que normalement en interview, on est un peu censé parler des projets, on est toujours un peu censé dire bon ben là ensuite je pense que je vais faire ça, ça et ça.
Non, et c'est moi, intéressant.
J'assume, oui, ça... j'assume de plus en plus justement.
Enfin, n'arrête pas en fait, d'écrire, mais bon.
Mais non, j'arrête pas, mais je contrôle pas en fait. J'assume de plus en plus. Et dans le podcast procrastination, je finis par être, j'ai appelé ça la voix contraire, celle qui dit ben non, je sais pas, je comprends pas. Moi, je fais les choses comme elles viennent. C'est pas prémédité, c'est. Et à l'heure actuelle, c'est intéressant, en même temps un petit peu angoissant, mais très intéressant, c'est que je ne sais pas ce qui va venir. De toute façon, la pulsion créatrice, elle est là. En ce moment, je dessine beaucoup. J'ai écrit des poèmes aussi à un moment donné. Ça, c'est là, ça ne va pas partir. Si j'ai quelque chose à écrire à nouveau, je ne sais pas quelle forme ça va prendre. Peut-être que je reviendrai à la fiction, et ce serait très intéressant de voir ce que ça donnerait. Mais je ne peux pas garantir que ce sera le cas. Mais je n'exclus pas non plus que ce soit le cas. Simplement, à ce stade... Je suis encore, comme je le disais au début, à gérer des choses, à retomber sur mes pattes.
Et oui, à gérer la fin de l'année suspendue, quoi.
Et puis la fin de... Je dirais que je pense que j'ai besoin de finir de faire le tour de cette question qui est, j'ai passé une grosse partie de ma vie à m'épuiser, à essayer de faire ce que les autres ont attendu de moi, y compris dans l'écriture, qui est quelque chose que j'ai fait par passion, mais où je me suis vraiment mis la pression parce que je sentais qu'il y avait des attentes. Je me rends compte que je ne vais jamais avoir le parcours que les autres attendaient de moi, parce qu'en plus, de toute façon, je suis partie tellement loin de ce qu'on attendait que je ne sais pas où je vais. Ça va... Sans doute, il y a encore des choses intéressantes, je ne sais pas où elles sont, mais il faut que je termine de décider de ce que je souhaite faire profondément, et ce que je souhaite faire profondément pour ne plus jamais m'épuiser. Comment faire les choses, garder cette envie de les faire par passion et pas par obligation. Je pense qu'il y a vraiment ça. Donc, oui, je suis quelqu'un qui crée de toute manière depuis que je suis petite, sous une forme ou une autre. Il y a toujours quelque chose qui sera là, mais à l'heure actuelle, je suis incapable de dire ce qui va venir.
Ben, il y a une autre de tes passions qui t'amène à écrire finalement, c'est la musique.
Complètement.
Et j'aimerais bien que tu parles un peu de ta relation à la musique, parce que moi j'ai été dans c'est dans le premier c'est dans pardon c'est excuse-moi je, c'est nous
dans
qui
nous qui
n'existons
n'existons
pas. Oui. C'est dans, là-dedans qu'il y a une scène où tu es sur une plage aux États-Unis à New York, à côté de New York. Et moi ça m'a stupéfaite parce que tu découvrais une nature magnifique et tu avais de la musique sur les oreilles.
Bah, complètement. Après, New York, c'est particulier. C'est-à-dire, c'est le dernier gros voyage que j'ai fait, sans doute pour un moment, parce qu'il m'a épuisé. C'est là que je me suis rendu compte que ça devenait difficile. Mais c'était le cadeau que mes proches m'avaient offert pour mes 40 ans. New York, c'est un rêve d'adolescence.
Mais tu en parles d'ailleurs. Oui.
Voilà, il fallait absolument que je visite ça un jour. Et ma sœur avait cette idée depuis longtemps que pour mes 40 ans, elle m'offrirait ça. Et il y a eu plein de proches se sont cotisés. Et c'est un voyage qui a été merveilleux et douloureux aussi. Mais New York, pour moi, c'est très, très fort associé à des références culturelles, musicales et cinématographiques aussi. Et je pense qu'une de mes passions, parce que je savais que j'oubliais quelque chose dans les critères de diagnostic de l'autisme, il y a ce qu'on appelle les intérêts spécifiques, se passionner pour des choses de manière réduite et un peu obsessionnelle, entre guillemets. Et moi, j'ai une passion extrêmement forte... pour la musique, pour la culture populaire, je pense, le cinéma, la littérature, le fantastique, mais en particulier la musique. Et pour moi, New York, c'est entre autres, c'est Patti Smith, c'est un des albums de PJ Harvey, qui est une de mes chanteuses préférées, c'est beaucoup de choses. Et Patti Smith, bah, forcément, j'ai trouvé des... Et Suzanne Vega aussi, oui. Il y a énormément de références de Suzanne Vega. Je suis allée voir le restaurant dans lequel elle a écrit la chanson Tom's Diner, par exemple. Ça, il fallait que j'y aille, il fallait que j'aille voir l'endroit. Et là, je regarde, je connais ce texte par cœur depuis que j'ai 14 ans. On dit, bon, ben voilà, le personnage qui raconte l'histoire est là-bas, parce qu'il y a la vitrine qui est là-bas, le bar est ici, elle regarde les passants, donc elle est assise là-bas.
Ah oui, tu t'es refait un cinéma.
Ah ben, complètement. de ton adolescence. Coney Island, j'arrive sur cette plage et j'étais épuisée. C'était vraiment un jour de fatigue, j'avais mal partout. Et arrivée devant la mer, j'ai découvert depuis que la mer me détend. Ça fait partie des choses qui m'apaisent. J'ai ressenti un calme et une euphorie, et il a fallu que je marque ça par de la musique. Et j'ai mis une chanson de Patti Smith qui me met en transe à chaque fois. Parce que je pense, j'ai pensé à elle à cause du livre Just Kids, que j'adore, qu'elle a écrit. Et la couverture est une photo d'elle, et de son amant à l'époque, Robert Mapplethorpe, qui est un photographe très connu, très jeune, sur la plage de Coney Island. Donc j'ai pensé à eux, j'ai dit bon ben voilà, j'y vais, je me replonge. Et j'ai vécu un moment magique avec la mer devant moi, le New York et toute la légende de New York autour de moi et cette chanson dans les oreilles. Et c'est mon rapport au monde, je fonctionne comme ça, j'ai toujours de la musique.
De la musique.
Elle me protège des bruits aussi. J'ai tendance à me... C'est un bouclier pour me protéger des bruits qui me fatiguent.
Donc tu en écoutes tout le temps.
Tout le temps. Dehors, j'ai tout le temps au minimum des bouchons d'oreilles ou de la musique.
Ah oui, pas vraiment la musique.
C'est un rapport très, très, très fort à la musique.
Et du coup, tu peux nous dire un petit peu ce que tu écris en tant que chroniqueuse, comment...
Là aussi, j'ai un petit peu ralenti. Là, c'est, comme je disais, ce n'est pas une période pour l'écriture. Mmh. Donc, pour plein de raisons, j'ai un peu laissé de côté. J'ai aussi écrit un peu sur des livres sur la musique, notamment sur des films, des séries. Quand j'aime quelque chose, j'ai besoin d'écrire dessus. En musique, j'ai beaucoup... Je pense que c'est parti beaucoup de la constatation que quand j'aime quelque chose, j'ai besoin de le communiquer, mais je ne sais pas le faire à l'oral. Et ce que j'adore, c'est creuser l'œuvre d'un artiste, c'est-à-dire pas chroniquer toute l'actualité, mais suivre des artistes sur le long terme. Et mon plus grand plaisir, là, ma dernière chronique en date, c'est le livre de poésie de PJ Harvey, qui est ma chanteuse préférée depuis que j'ai 18 ans. Elle vient de sortir un livre de poésie qui est en patois du Dorset, qui est un petit peu ardu, que j'ai adoré lire. J'ai lu ça ce week-end, j'étais en transe, que je peux... Et mon plaisir, c'est voilà, de pouvoir écrire dessus en disant, ben voilà, je sais ce qu'il y a derrière. Je connais sa carrière depuis toujours, quasiment. Je peux expliquer pourquoi il y a ce thème, pourquoi c'est dans ce décor, pourquoi je peux le rattacher à sa musique ou non. Et la chronique s'écrit toute seule parce que tout ça, je l'ai intégré. Et j'ai un plaisir à ça. C'est qu'à chaque fois, je peux dire, bon, bah voilà, j'ai tout le contexte. Je n'ai pas à sortir ça de nulle part. Je sais exactement d'où ça vient et j'adore ça.
Et donc, c'est une histoire qui t'accompagne aussi depuis des années, quoi. C'est,
ben complètement.
C'est la musique.
Et là, plus récemment, ben là, j'écris plus trop parce que je vais aussi moins voir de concerts. Je me suis beaucoup intéressée à la scène, à une certaine scène indé parisienne. Et j'ai beaucoup fait connaissance et me suis liée d'amitié avec des chanteuses, notamment, qui écrivent en français. Pas ce qu'on appelle la chanson française, c'est pop rock, mais avec une écriture en français. Je suis passionnée par le fait d'écrire, de faire sonner la langue française. Et j'ai beaucoup écrit sur cette scène depuis 10 ans. Je me suis beaucoup refocalisée sur ça. Et j'ai un plaisir aussi à suivre des artistes qui, là, sont aussi des gens que je connais. Et à les regarder évoluer sur scène d'un album à l'autre. On m'a demandé aussi de faire les bios dans les dossiers de presse. La présentation qui dit, bah, voilà, tel album. C'est la même démarche, en fait. Tel album, bah, voilà, oui, telle personne a fait ça, ça et ça. Et tel album, il y a cette démarche. Et ça vient de là, là et là. Et j'adore faire ça. Bah, écoute, pour moi, c'est mettre une narration sur quelque chose aussi.
Oui, puis le vivre deux fois en l'écoutant et en l'écrivant finalement.
Bah, en l'écoutant et maintenant en voyant les coulisses aussi. Je suis fascinée par les coulisses.
Et tu parles donc.
Comment ça se construit.
Tu parles beaucoup de cinéma, de littérature, de la nature, de tout ce que tu as lu aussi. Tu as cité beaucoup, beaucoup d'écrivains que je ne citerai pas, mais qui ne sont pas forcément, je vais Nancy Huston, ce n'est pas forcément des écrivains de genre, entre guillemets.
Pas uniquement, non, il y en a pas uniquement.
Donc, tu as une formation littéraire à la base.
Formation, oui et non, c'est plus, j'ai appris à lire tôt, vraiment par intérêt, j'ai appris à lire avant l'école en fait. Enfin, avant l'école, avant le CP que j'ai passé du coup. Et j'ai eu un livre en main tout le temps depuis que je suis petite. Je lis moins à l'âge adulte, j'ai d'autres passions, mais j'ai lu toute mon adolescence, toute mon enfance. Donc vraiment, c'est quelque chose qui me passionne. Et du coup, l'écriture est venue de là, assez clairement. Et je pense, quelqu'un m'a fait une suggestion récemment, c'est que beaucoup de personnes qui sont autistes ont un intérêt marqué pour les histoires, pour la fiction, parce que c'est aussi un moyen d'apprendre des choses sur comment fonctionnent les autres. D'apprendre des choses sur les émotions, de vivre des choses d'une manière un peu détournée.
Ah oui.
De se construire des références, d'éprouver ses émotions face à des histoires avant de les éprouver dans des situations réelles, peut-être.
Ah oui, une sorte d'entraînement.
C'est possible qu'il y ait quelque chose de ça, un intérêt de cet ordre-là. Parce que juste pour les histoires sous toutes leurs formes, oui.
Et tu disais d'ailleurs dans ton livre que l'imaginaire était était quelque chose que les autistes, enfin des gens, c'est difficile à dire parce que autiste, ça a l'air d'être tellement vaste qu'on ne sait pas trop si on vise bien, étaient intéressés par la science-fiction, par le
Il paraît, oui.
fantastique.
Ben, les personnes neuroatypiques de manière générale, donc aussi bien, je vais dire des bêtises, j'ai pas tout en tête, ADHD notamment, d'autres formes de neuroatypie, au point que c'est une question qu'on m'a posée plusieurs fois pendant le diagnostic. Quand je suis allée voir le psychiatre, le premier du diagnostic, c'était lui en gros, qui m'orientait ensuite pour passer ou non les tests, c'était lui qui allait me dire si potentiellement j'avais le profil. Et je lui dis, donc ce que je viens de dire, je suis une grande lectrice depuis l'enfance. Et tout de suite, il ouvre de grands yeux, il me dit, Heroic Fantasy? Il
Oui,
m'a
c'est
dit
ça,
tout de
je me
suite.
rappelle de ce passage, effectivement.
Et plus tard,
C'était
j'ai eu un questionnaire par la psychologue qui m'a fait passer les tests où la question était, Aimez-vous la science-fiction? Donc
Et
de fait, ça revient beaucoup. Et
du
c'est
coup,
avéré
oui.
d'ailleurs que je connais un certain nombre de personnes qui sont soit diagnostiquées, soit qui se questionnent, qui sont neuroatypiques de manière plus large, j'en connais un certain nombre dans le champ de la science-fiction. Je pense qu'effectivement, il y a un lien assez fort entre les deux.
Qui est assez étonnant parce que la science-fiction n'est pas, c'est pas, c'est pas particulièrement jusqu'à ces dernières années une littérature très entre guillemets psychologisante ou psychologique ou avec des
Après,
personnages.
pour certains... Certains mettent en avant, alors soit le côté, j'ai pas une explication arrêtée pour ça, mais soit le côté logique. Certaines personnes autistes, pas toutes, ont un goût plutôt pour les choses logiques et analytiques, je dirais. Il peut y avoir de ça. Il peut y avoir le goût pour d'autres mondes qui ont un fonctionnement différent du nôtre. Moi, je sais que le fantastique et la fantaisie adolescente, il y avait un refuge très fort. Après, c'est pas uniquement ça, ce serait caricatural de dire que ce n'est que ça, mais c'était un monde que je trouvais plus. Dans lequel je me réfugiais, qui était plus accueillant finalement que celui dans lequel je vivais et qui me paraissait plus intéressant. Il y a une multitude d'explications selon les personnes, mais en tout cas, je constate que ce sont deux choses qui vont souvent ensemble, pas de manière exclusive, mais ça revient de manière assez frappante.
Oui, c'est vrai, je l'ai découvert, donc c'est assez étonnant parce que.
Je n'ai pas encore d'explication
Oui.
arrêtée, puis je ne veux pas non plus tomber dans des explications clichés, ça serait sans
Oui.
doute
Non, non, de toute façon, il n'y a
pas
rien de
passionnant.
cliché dans ton livre. C'est
Ben,
justement.
j'essaie de démonter les clichés parce qu'il y en a
Oui.
tellement. Mais c'est à cause de ces clichés que moi, je n'ai pas su avant plus de 40 ans que j'étais autiste. C'est-à-dire pour moi, les autistes, ben, au départ, quand j'étais petite, on n'en parlait pas. Après, il y a eu Rain Man. Je ne les
Oui.
reconnaissais pas du tout. On a commencé à avoir des personnages. Pour moi, il y avait Sheldon Cooper dans Big Bang Theory, je ne m'y reconnaissais pas. Alors
Enfin,
que
lui, il est
dans
bien
Big Bang.
caricatural.
Bah à la fois, il est à la fois juste et caricatural,
Ouais.
mais surtout, dans Big Bang Theory, il y a un deuxième personnage qui est sa petite amie Amy. On oublie de
Oui.
la citer, mais moi je m'identifiais beaucoup à Amy. Il y a beaucoup de choses que je reconnais dans son vécu. Et Amy, maintenant, je regarde la série, je me dis, mais elle aussi, en fait. Elle, c'est le profil féminin. Il y aurait a priori un profil féminin un peu plus typique qui serait davantage à essayer de comprendre les règles sociales et à s'y conformer. Mais Amy, je me reconnais complètement dans ce profil de la femme qui n'a pas eu d'amie adolescente, qui n'a pas fait la fête adolescente et qui
Oui.
adulte découvre tout ça et qui est. Qui a 15 ans dans sa tête parce que d'un seul coup elle y a droit, mais ça c'est complètement ma vie en fait.
Et oui,
Mais en
sauf
même
qu'elle a
temps
une.
qui a un certain intérêt pour le fonctionnement social comparé à Sheldon.
Après, en tant que femme, elle accepte quand même d'avaler beaucoup de couleuvres, donc le personnage est
Oui.
un peu limite quand même.
Ben oui, mais je trouve qu'elle est assez parlante pour ça.
Oui.
C'est un personnage qui en a bavé, qui n'a pas terminé sans doute de se construire. Mais après. Faut dire, Big Bang Theory, tous les personnages sont caricaturaux, mais tous, à
Oui.
un degré ou un autre. Donc, pas plus les autistes que les autres.
Oui, puis.
Mais elle me parle assez, en tout cas. Donc, il y a d'autres personnages. Maintenant, j'en découvre plein. Typiquement, alors je fais un petit pas de côté. Parce qu'en lisant sur le sujet, j'ai découvert que dans les personnalités potentiellement autistes, il y aurait Tim Burton, qui n'est pas diagnostiqué, mais qui aurait le profil, et effectivement, je ne serais pas étonnée. Et récemment, j'ai revu Édouard aux mains d'argent. J'ai fait un billet à ce sujet sur mon blog. Et c'est la métaphore la plus fine que j'ai jamais vue d'un personnage autiste, alors que très probablement, il ne le savait pas.
Ah oui.
Mais c'est exactement ça. Que ce soit la posture, que ce soit les attitudes sociales, le fait qu'ils ne comprennent pas les sous-entendus, tout y est, absolument tout.
Ah
Si vous voulez voir un personnage autiste juste, revoyez Édouard aux mains d'argent.
Bah, écoute, on va regarder. De toute façon,
C'est beaucoup
c'est,
plus ça pour moi.
j'imagine que maintenant, le regard que tu portes sur tout ce qui se fait autour de toi, ça a dû changer quand même.
Ben maintenant, j'ai un radar, je vois des signes partout. Alors, des
Voilà.
fois, sans doute que je me trompe.
Mais
Mais
du
je
coup,
commence à identifier des personnes dont j'apprends ensuite quelles le sont ou qu'elles sont en questionnement, effectivement. On apprend à... Une fois qu'on connaît les signes, on les repère plus facilement.
oui, c'est sûr. Et puis après, tout le monde n'a pas peut-être envie d'entendre les choses possibles ou pas. Je ne sais pas, je
Tout
peux
le
pas.
monde n'a pas forcément besoin. Moi, ça répondait à une recherche et à une souffrance, vraiment. Il fallait que je sache. Il y avait quelque chose, il fallait que je le sache.
Oui,
Il y
parce
a sans
que.
doute des personnes qui ne sont pas du tout en recherche et à qui ça n'apporte rien de le savoir.
Effectivement, c'est ça. Maintenant que tu le sais, c'est ça. Qu'est-ce que ça t'apporte? Et là, tu ne l'as pas encore vraiment identifié, j'imagine. C'est un peu frais encore.
Parce que ça m'apporte, je commence à le savoir effectivement. Ce que je voulais surtout dire, c'est que je n'irai pas. Moi, on m'a déjà posé des questions récemment sur comment dire à quelqu'un que cette personne est peut-être autiste. Et c'est un sujet très très délicat parce que même moi qui étais en quête, vraiment, ça a été un bouleversement. C'est pas anodin comme démarche. C'est pas du tout anodin. C'est nécessaire, pour moi ça l'a été en tout cas. Mais je ne prendrai pas la décision d'un seul coup d'infliger ça à quelqu'un qui ne me paraît pas spécialement être en quête de réponse.
Oui, parce que de toute façon, tu tombes dans la sphère de l'intime, quoi. C'est pas comme de lui dire, attention, tu as une maladie ou c'est vraiment quelque chose. C'est la personnalité, là.
Ben voilà, si la
Ouais.
personne vient me dire je ne comprends pas pourquoi je suis tout le temps fatiguée, je ne comprends pas pourquoi les autres ne m'acceptent pas, je sens qu'il y a quelque chose, je ne sais pas quoi. Là, éventuellement, je vais peut-être essayer de l'orienter, mais une personne qui me paraît avoir trouvé, construit sa vie, son équilibre et
Oui.
qui vit bien comme ça,
Et qui te demande rien, en
et qui demande rien, voilà,
fait.
c'est surtout ça. Moi, la personne qui m'en a parlé sentait, elle venait de lire Nous qui n'existons pas, elle a senti que j'étais en recherche.
Oui, c'est ça.
Elle ne me
Parce qu'en
l'a
fait, à
pas.
chaque fois, c'est une démarche qui vient de l'extérieur, quelque part. C'est un coup de, pas un coup de pouce, mais.
Nous qui n'existons pas, ça a été une suite de discussions qui m'ont amené à ça. La prise de conscience que je n'étais pas la seule personne, comme j'ai cru longtemps, à être donc asexuelle, aromantique, ou en tout cas ne pas être intéressée par tout ce sujet-là, à ne pas être en quête de relations amoureuses, de relations sexuelles, de relations de couple. Et je croyais vraiment que j'étais une anomalie isolée. Jusqu'à ce que deux personnes tour à tour me disent, mais tu sais, je connais quelqu'un d'autre. J'avais 40 ans déjà.
Oui, mais oui, c'est vrai. Hein, c'est si t'étais essayer d'entrer dans la norme et que la norme, ben, c'est difficile aussi de s'en défaire.
Je me suis surtout laissée convaincre que j'avais un problème et consultant des psys, alors psychanalystes au départ, puis d'autres types de psys, je dirais, je me suis laissée convaincre que ben, si j'avais des problèmes d'anxiété et de dépression, forcément, c'est parce que je n'étais pas en couple, ça ne pouvait être que ça. Donc, je me suis vraiment fait du mal à essayer de me convaincre de ça, à essayer de dénouer, entre guillemets, un blocage qui n'en était pas un. Et ça a été une libération quand j'ai compris que non, non, j'ai le droit d'être comme ça en fait. Mais foutez-moi la paix. C'est pour ça la libération de la quarantaine, c'est le droit de dire aux gens, maintenant je suis comme ça et foutez-moi la paix.
Oui,
Je
effectivement.
suis comme ça, je suis bien comme ça et c'est moi qui décide.
Voilà. Donc, du coup, on a un petit peu parlé. Hein. Je pense qu'on n'a pas beaucoup, beaucoup. Enfin, on a dit beaucoup de choses, mais je pense qu'il faut vraiment le lire, le livre. Hein. Il n'y a pas d'autre solution parce que c'est. Enfin, il n'y a pas une page où on ne peut pas sauter les pages. On ne peut pas dire je vais plus vite. On est obligé de suivre. Il y a beaucoup de choses. Hein. Finalement, c'est vraiment pas une autobiographie parce qu'il y a quand même un questionnement. Ce n'est pas juste je raconte ce qui m'est arrivé. C'est j'essaye de comprendre ce qui m'est arrivé. Et on fait des voyages en musique, en littérature, dans la vie sociale. Enfin, je veux dire, on découvre une personnalité qui est d'une très grande richesse, une très belle personnalité, hein, sans vouloir te jeter des fleurs. C'est un roman qui. Enfin, c'est un roman, tu vois, ça se lit comme un roman. Parce qu'effectivement, on suit. Ça finit bien, ce qui est important.
Dites bien, je ne voulais pas terminer. Bah, le sujet était un petit peu lourd et je traverse des phases, enfin je parle de phases qui sont quand même assez, assez compliqué. Pour
oui,
moi,
bien
je ne pouvais
sûr.
pas terminer ce livre sur quelque chose de plombant, en fait.
Non,
Alors, ce n'est pas non
puis.
plus tout est beau, le soleil brille, mais c'est
Ah non, pas du
vers la
tout,
lumière.
hein. Sinon, mais bon, il y a de l'espoir. À partir du moment où on arrive à comprendre ce qui se passe finalement et puis à essayer de trouver des solutions, s'il y a besoin de trouver des solutions, hein. Après, je veux dire, on ne soigne pas un cancer, quoi. C'est juste comprendre sa vie finalement et c'est très intéressant pour tout le monde. Pour tout le monde. Et puis.
L'idée était aussi de mettre les gens dans ma peau pour leur expliquer, ben voilà, quand on parle de tel aspect, en tout cas pour moi, ça ressemble à ça, ça peut prendre cette forme-là.
Tout à fait,
Je
oui.
peux rentrer vraiment dans le détail de ça.
Et puis, comme je disais, c'est aussi intéressant, c'est le parcours d'une, bah, ce que j'appellerais une femme de lettres, quoi, quelqu'un qui écrit, qui a du contenu dans, qui écrit dans un genre ou en général qui reste, enfin, faut le dire, mal vu en France, enfin mal vu,
Ah oui, ça.
mal pris en compte, ça
Peut-être pas
reste.
seulement en France, mais c'est vrai qu'en France, on a un problème avec
En
les genres.
France, oui, avec la littérature de genre, oui. Les policiers s'en sortent un peu parce
Ça commence, oui, ça
que.
n'a pas toujours été le cas, mais
Oui,
ça
depuis qu'ils
commence à
font
être un peu
500
plus.
pages, oui.
Oui.
Voilà, et puis bon, et puis parce qu'il y a beaucoup d'écrivains, je pense, qui se sont cachés dans le polar pour écrire, tout simplement, parce qu'il n'y a pas que la quête du méchant, de celui qui l'a fait, de celui qui l'a assassiné. Mais du coup, c'est vrai que ça donne aussi de la profondeur finalement à tout ce que tu as fait jusque-là, parce qu'on voit la matière, quoi. Oui, c'est
Je
ça.
trouve ça passionnant à titre personnel de revenir sur ses propres textes, de comprendre ce qu'il y a derrière. Et quelque part, c'est presque paradoxal de me retrouver moi à analyser mes propres textes à l'intérieur de mes textes.
Voilà, exactement. Et puis en même temps. D'une façon aussi qui soit littéraire, pas uniquement autobiographique ou sur le domaine de l'expérience humaine, quoi. C'est pour ça que quand je les ai lus au début, quand je t'ai demandé qu'est-ce que je pourrais prendre, parce que
Oui.
c'est quand même très différent ce que tu fais. Tu m'as parlé de ces deux livres et puis je me suis dit, tiens, ça se veut une émission littéraire, mais finalement, c'est tout à fait de la littérature, dans le bon sens du terme.
Mais pour moi, les deux
Et,
sont liés. Après, c'est
ouais.
vrai que ça peut paraître très différent de prime abord de ce que j'ai pu écrire en fiction fantastique. Et en même temps, je me suis aussi efforcée. Je pense aussi, je voulais faire le lien pour les lecteurs qui me suivent d'un livre à l'autre, je voulais faire le lien entre tout. Mais de la même manière que pour moi, écrire sur un blog ou écrire des chroniques ou écrire de la non-fiction ou écrire des nouvelles, c'est la même pulsion à la base. Ça part de la même, du même élan. Et j'ai l'impression que dans d'autres genres littéraires, plus en littérature blanche, on a moins de scrupules à passer de l'un à l'autre. Je peux en parler tout à l'heure d'Nancy Huston, par exemple. Ses essais, comme ses romans, sont dans la même collection. Les
Oui.
lecteurs vont acheter l'un et l'autre indifféremment, alors que dans les genres, c'était un peu plus compliqué de passer d'un extrême, enfin d'un extrême, d'une forme à l'autre. Et je remercie infiniment Dystopia qui m'a ouvert ce créneau à part dans la collection, parce que je ne savais vraiment pas où je pouvais placer ces deux textes.
Oui, d'ailleurs, en fait, je voulais, quand je les ai contactés, ils m'ont dit non, non, il faut lire les deux, il faut lire les deux. Donc.
Je pense qu'il n'allait pas dire le contraire, mais
Non,
c'est vrai que
mais
les deux sont
effectivement,
complémentaires.
c'est tout à fait ça. Le premier en fait donne une. Donc, je dis le titre. Hein, nous qui sommes, qui n'existons pas, pardon, qui est un titre assez fort quand même aussi, qui est assez provocant finalement. C'est beaucoup plus court finalement que le deuxième. Et on est là, on découvre, on suit. Mais effectivement, c'est plus, entre guillemets, vivant parce que c'est plus court et que ça rapproche plus peut-être du blog, du texte du blog dont tu parles, qui est à l'origine finalement de
Voilà, puis
ce premier livre.
il a été écrit avec plus de recul, c'est-à-dire que je l'ai écrit en parlant d'une expérience passée, c'est-à-dire voilà tout le parcours pour arriver à ce point, alors que l'année suspendue a été écrite en partie en cours de diagnostic, et en
Voilà.
ne sachant même pas, et ça je le précise dès le départ, je ne savais même pas si le diagnostic allait être positif, et pour moi le texte n'avait d'intérêt que si le diagnostic était positif. Donc c'est un texte un peu chaotique qui mute en cours de route, qui devient
Oui.
un journal intime sur la fin qui n'avait pas commencé comme ça, et que je commence en n'étant même pas sûre que je vais le terminer.
Oui,
C'est un
tout
peu
à fait.
chaotique.
Oui. Enfin, chaotique et en même temps,
Chaotique
il a
dans sa
sa...
conception, je dirais.
Voilà, parce qu'il a sa propre logique quand même. Et qui est plus... Et qui finalement, comme je t'avais dit, tu commences à chercher quelque chose, tu trouves ben, la romantisme, et puis finalement, ce n'est qu'un début, en fait. C'était
C'est
pas
qu'un
ça
début.
le plus important, c'était pas ça, quoi. C'était de...
Ce qui me frappe, c'est que l'autisme est présent entre les lignes dans Nous qui n'existons pas. Il y a... D'ailleurs, j'ai supprimé un passage où je donnais quelques-unes de mes bizarreries pour dire, bizarreries entre guillemets, pour dire que j'avais toujours été hors norme, mais pas par choix, dans le sens où je fais les choses comme elles sont naturelles et les gens se retournent en disant qu'est-ce qui se passe. J'avais donné des exemples que j'ai supprimés parce que j'avais l'impression que le passage était un peu gênant à lire. Je voulais quelque chose de très accueillant comme texte. Et j'avais peur que ça sorte les gens. Et tout ce que j'ai supprimé, c'était des traits autistiques. Et je ne le savais pas.
Ah oui, c'était de l'autocensure, alors, presque.
J'ai senti que je partais sur quelque chose qui... Je voulais un texte très lumineux et très doux.
Et c'est le cas,
Et le deuxième
effectivement.
aborde des choses un petit peu plus délicates, peut-être.
Oui, il est plus profond, il est plus sombre, parce que c'est effectivement quelque chose qui a sans doute apporté plus de souffrance que le fait de pas, bah, de pas avoir un petit ami quand tout le monde en avait, ou qui, effectivement, à 40 ans, comme tu disais, on peut le prendre avec du recul, tandis que l'autre, non, c'est la personnalité
Écrit
elle-même. Ouais.
en cours et j'ai trouvé intéressant d'avoir un livre qui mute même de forme en cours de route, puisque d'un seul coup, au moment où je passe les tests pour le diagnostic, je décide que pour chaque étape des tests, je vais faire un billet façon journal intime. Ce qui n'était pas du
Oui.
tout prévu quand j'ai commencé et ce qui n'est pas du tout la structure du livre jusque-là.
Oui, parce que, mais en fait, en même temps, au moment où on dit, bon, bah voilà, je suis arrivée, maintenant il faut vraiment que je fasse les choses par étapes et au fur et à mesure où elles arrivent finalement. Puisque
Voilà,
c'est
c'est ça.
ça ce livre aussi.
Puis c'est avéré que les tests, chaque test est quelque chose que j'ai vécu différemment et ça, je m'y attendais pas. Il y
Oui,
a des
parce que.
fois où je suis sortie complètement euphorique, il y a des fois où j'étais pas très bien en sortant, il y a des fois où ça m'a appris des choses, des fois non, c'était.
Oui, puis il y a des
C'est
fois,
pour ça qu'il fallait
c'était.
le fixer juste après.
C'était hostile même, tu étais en milieu hostile.
Oui, il y a eu un rendez-vous qui s'est pas très bien passé. Bon, heureusement, un seul.
Mais c'est vrai
J'ai
que...
choisi d'en parler aussi, ça.
Voilà, bah écoute, je crois qu'on a un peu abordé la question. Je ne pense pas qu'on a
On a un
fait
tout petit peu
le
commencé à
tour.
effleurer.
Voilà, mais il faut lire le livre et de surtout lire les livres. Hein. Je rappelle, donc, nous qui n'existons pas, Dystopia 2018, donc enfin, de Mélanie Fazi, et le deuxième qui est beaucoup plus dense et beaucoup plus qu'on accompagne finalement, on accompagne une quête sur soi-même. L'année suspendue, donc qui veut bien dire ce qu'il veut dire, parce qu'à un moment t'as tout arrêté,
Voilà.
tu t'es occupé de ça, de cette problématique, tu as essayé d'aboutir. Et finalement, c'est quand même un succès. C'est quand même positif parce que tu as une réponse. Et puis maintenant, comme tu dis, tu ne sais pas encore ce que tu vas écrire. Mais bon, tu as le temps.
Écoute, moi j'ai le temps, je peux
as
même
le
pas dire
temps.
pour l'instant si je vais me remettre à écrire. Je ne peux que supposer que oui, parce que c'est quelque chose qui est très fort. C'est étrange ce flottement, mais c'est intéressant de ne pas savoir. C'est très intéressant.
Et ce que tu vas écrire en plus, tu ne le sais même
Et
pas
sous
non
quelle
plus.
forme, non.
Voilà.
Je pense que j'ai fini avec. En tout cas, cette phase-là pour moi est finie. Donc, du coup, mystère. Mystère même
Voilà.
pour moi.
Voilà. Bah, écoute, on va s'arrêter là. En tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir accepté cet
Merci à toi.
entretien qui, donc, c'est deux très beaux livres. Hein. Donc, lisez Mélanie Fazi. Je pense
Merci.
pas que je ne serai pas écoutée. Et puis écoute, à la prochaine fois, je ne sais pas, on se croisera sans doute sur un festival ou sur ton blog.
Voilà, en attendant le festival, j'en ai pas prévu dans l'immédiat, mais
Oui,
le blog
effectivement, il
en
faut
attendant.
que. Voilà. Et puis bah, écoute, je te remercie. Puis je te dis au revoir et à
Merci
bientôt
encore.
alors.
À
Merci
bientôt.
Mélanie. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.